Cours de philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 26 mai 1999 à Saint-Jodard.
Assez longue, et c'est pour ça que je demande au père Marie-Dominique de la lire.
Donc, mon père, c'est par rapport à ce que vous nous avez dit il y a quelques cours sur la place de l'angoisse. Donc, le choc extérieur passant par les sens, par la sensation, nous replie sur nous. À partir de cet instant, il y a diminution d'affectivité et l'intelligence d'objectivité, pardon, et l'intelligence n'atteint plus le réel de façon juste, non déformée. Il y a une certaine oubli de l'expérience objective, donc de la vérité, l'existé actuel de telle réalité. N'est-ce pas la perte de cette vérité fondamentale qui est à la source de toute angoisse? La solution n'est-elle pas alors le retour au réel via la sensation? Sentir sans idée intermédiaire, pour toucher l'existé de cet être qui est autre. Cela permet de prendre conscience qu'il y a une indépendance, une liberté actuelle objective à l'égard de l'autre, donc vis-à-vis d'une blessure, d'un choc premier subi, que ce choc est fini. Donc, est-ce que la guérison n'est pas dans une nouvelle information du corps, par la sensation, qui le libère de la première qui n'est pas vraie? N'est-ce pas ultimement l'acte dans ces cinq modalités qui seraient cause de la vraie guérison de l'angoisse?
Alors, distinguons bien un point de vue philosophique et un point de vue pédagogique. Tout le temps, distinguez bien les deux. Vous voyez, ici, vous voyez, au fond, on essaie de chercher la guérison. Ça, c'est pédagogique. Guérir, la guérison... Aujourd'hui, des quantités de recettes, hein, parce que, hélas, c'est souvent des recettes, des quantités de recettes se présentent à nous pour la guérison, des retraites de guérison. Est-ce qu'on peut dire une retraite de guérison? Je ne sais pas, hein, ça jure un peu. Hein. La retraite, c'est en vue de la finalité, ce n'est pas la guérison. La guérison, c'est se regarder. C'est nécessaire de se regarder quand on a un bobo. On regarde le bobo. C'est évident. Hier, je me suis trompé avec mon stylo. J'ai fait l'inverse. Alors, j'avais un trou. J'ai regardé s'il y avait du sang ou pas. Bon, il n'y en a pas. Tant mieux. Il n'y a rien. C'est pas ça. La peau était suffisamment forte. Alors, c'est vite fait. La guérison, vous voyez, on vit un siècle de confusion. C'est ça qui m'affole complètement, d'unir des mots ensemble, retraite de guérison, mais qu'est-ce quoi? Non, infirmerie de guérison. repos de guérison. Je suis tout à fait d'accord, c'est un repos, mais la retraite, c'est pas un repos, quoi. C'est un moment où, au contraire, on donne un coup de fouet sur la vieille bête qui est en nous pour qu'elle rebondisse. Parce qu'il y a un obstacle devant lequel elle s'arrête. Alors on ne peut qu'elle... Et on lui donne le picotin pour que ça va être dur. On confond tout. Et là, parce qu'on confond tout, on ne regarde plus les finalités. Ce serait intéressant, vous savez, amusant. Il y aurait un petit guignol très amusant à faire, de regarder tous ces procédés de guérison aujourd'hui. L'humanité est malade. Hein. Alors on transforme l'humanité en une infirmerie. Ne transformons pas nos couvents en infirmerie. Un couvent pour la guérison. D'accord. Je voyais chez les trappistes, dans les constructions des trappistes, une place énorme pour l'infirmerie. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Alors j'ai demandé à celui qui peut donner renseignements, c'est-à-dire le père qui accueille, pourquoi l'infirmerie est-elle si grande? L'infirmerie, quoi, qui est liée à une trappe, trente religieux, c'est bien. Alors qu'il y ait trois, quatre cellules d'infirmerie, c'est pas si mal. Là, quinzaine. Donc la moitié du couvent n'a jamais. Alors, là, il tout bonnement dit, oui, collez-vous, les pères vieillissent plus longtemps qu'avant, meurent plus vieux. Alors il faut une infirmerie. Alors bientôt, après, la moitié du couvent sera fermée. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est curieux. Et alors, par le fait même, ça devient un poids qui fait que ça n'a plus la vivacité, l'élan, le renouveau. On est en arrière. Celui qui guérit, il est en arrière, parce qu'il regarde la plaie. La plaie s'est faite dans le temps. Et la plaie, il faut la guérir, c'est évident. Et la plaie demande un repos. C'est toute plaie, c'est pour ça comme un pansement. Qu'est-ce que c'est qu'un pansement? C'est arrêter le cours normal des choses. Je te donne un petit congé de 15 jours, hein. Je fais un pansement. J'arrête ton bras, un mois de repos. On le met dans le plâtre. Alors, mettre le couvent dans le plâtre. Alors, distinguons bien pédagogie, dans laquelle il y a des moments de guérison, et puis la métaphysique. Alors, quand on dit la métaphysique, l'époque ne guérit pas. Mais c'est évident que la métaphysique ne guérit pas. Je ne fais pas la métaphysique de la blessure, de l'homme blessé. Je ne fais pas la métaphysique de l'homme blessé. Je fais la métaphysique de l'homme vivant. Et je vois ce que c'est que la vie et la vie spirituelle. La vie de l'intelligence. Jusqu'où ça doit nous amener par la finalité. Alors, demandons à chacun ce qu'il doit donner. Autrement, on fait une mixture, une métaphysique guérison. Alors, une métaphysique guérison, impossible. Impossible. Mais qu'on voit que la métaphysique fonde une pédagogie, ah oui. Et une vraie pédagogie doit être fondée sur la vérité anthropologique. Et l'anthropologie, pour être vraie, doit être fondée sur une métaphysique. Oui, donc c'est un fondement radical, la métaphysique. Mais absolument nécessaire. Alors, la méthode Vitos n'est pas métaphysique. La méthode Vitos, c'est une méthode de guérison qui est excellente, mais c'est une méthode de guérison. Il y a très longtemps que je connais la méthode Vitos, parce que presque les premiers, je les ai vus, et ils sont venus me demander, au point de vue philosophique, si ça tenait. Alors, j'ai dit, c'est très intéressant parce que vous mettez l'accent sur les sensations. Mais faisons attention, le jugement d'existence, regarde l'intelligence. Et si on rappelle ça, c'est parce que quand la sensation a été blessée, et nos sensations sont blessées, à la place de regarder la réalité, on se regarde. Et on regarde le mal, la blessure. On ne guérit jamais en regardant la blessure. On doit la connaître et la dépasser. Parce que ce n'est pas la blessure qui est ma finalité. C'est au contraire. Et pour guérir, il faut repartir sur quelque chose qui reste sain, S-A-I-N, qui reste bon. Qu'est-ce qui reste bon? L'intelligence. Mes sens, aujourd'hui, dans mes sensations, sont la plupart du temps annexés à l'imagination. Je ne sais plus regarder la réalité. C'est ce que me disait un peintre à Paris. Le peintre, il sait regarder une pomme. Il sait regarder une fleur. Plus personne ne sait regarder une pomme et une fleur. Une pomme, elle est faite pour être mangée, pour être cuite. On ne la regarde pas. Alors que c'est si beau une pomme. Alors, il fallait le voir, ce peintre, regardant sa pomme. Regardez ses nervures. Regardez, et puis alors, tout, il me sait. Le peintre, il sait regarder la réalité. Nos yeux sont encombrés par le cinéma de l'imagination. Il y a une imagination. C'est lui qui me disait ça, c'est, ça m'intéressait du reste. L'imagination est telle aujourd'hui qu'elle a annexé nos sens. Et nos sens ne voient plus qu'à travers l'imagination, c'est-à-dire ne voient plus le réel. Et la philosophie, la fémologie, augmente cela, puisque le réel, c'est le vécu. Donc c'est quelque chose qui a été déjà assimilé, d'une manière plus ou moins bonne. Alors, la méthode Vitoz ne peut porter ses fruits que si elle a le jugement d'existence. Et ils avaient très bien compris ça. Je ne peux pas guérir l'essence par l'essence. Impossible. Je peux guérir l'essence par quelque chose qui est supérieur au sens. Nos sens, naturellement, donc au point de vue de la finalité, sont dépendants de l'intelligence et sont pour l'intelligence. La connaissance sensible est pour la connaissance de l'intelligence. Je ne peux pas, en tant qu'homme, de rester dans le sensible. Le sensible pour le sensible fait que ça moisit. Le sensible est fait pour m'élever au-dessus du sensible. Donc si mes sens sont blessés, sont annexés à la tyrannie de l'imaginaire, et quand ils sont annexés à la tyrannie de l'imaginaire, je ne vois plus qu'à travers l'imagination, et je ne vois plus la réalité. Je dois essayer progressivement de redonner au sens leur vraie finalité. Et cette vraie finalité, je la découvre en premier lieu dans le jugement d'existence. Puisque mon intelligence, comme intelligence, ne s'éveille que par l'être. C'est le contact de ce qui est en tant qu'il est qui éveille mon intelligence. Ce n'est pas la sensation qui éveille mon intelligence. Non. La sensation, c'est déjà moi. Ce n'est pas la sensation. C'est le réel. Et donc, la méthode Vitoz peut être assumée par une philosophie réaliste, mais elle demande à ce moment-là, justement, qu'on soit très attentif, que nos sensations sont ordonnées à notre intelligence. Et ça, je crois que c'est très important. Parce qu'autrement, on fait un mouvement, une sensation blessée qui veut se guérir par une sensation non blessée. Vous voyez ? C'était la fameuse méthode. Seul l'ouvrier peut guérir l'ouvrier. Tout Mauriac, Marie est immaculée, elle ne peut pas nous guérir. Mais, principe de l'action catholique, c'était ça. Seul celui qui est du milieu peut guérir celui qui est du milieu. Il y a quelque chose de juste, il y a en même temps quelque chose de faux. Parce que c'est celui qui est en acte qui peut guérir celui qui est blessé à cause de sa potentialité, à cause de sa faiblesse. C'est celui qui est en acte qui peut agir. Or, l'intelligence s'éveille dans le jugement d'existence. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la raison. La raison, avec ses lois, ne peut pas guérir. Mais l'intelligence, elle, peut. Parce que l'intelligence est mendiante du réel. Elle est mendiante de l'être. Et parce que l'intelligence est mendiante de l'être, elle peut rectifier mes sensations. Vous voyez, c'est là où on voit toujours que toute méthode pédagogique, or la guérison est une méthode pédagogique. C'est une infirmerie d'homme blessé. Ça peut se guérir par quelque chose de supérieur. Or, le supérieur, par rapport aux sensations, c'est pas l'imagination. Vous comprenez que l'imagination dépend des sens. Comment voulez-vous qu'elle puisse guérir ? Elle annexe. Il faut quelque chose qui dépasse les sens pour guérir les sens. Pour me redonner un regard vrai. C'est pour ça que l'artiste, il est intelligent. Il se sert des sens. Il voit que notre monde d'aujourd'hui se coupe de ça. D'où l'art abstrait. L'art abstrait veut guérir par les sens et non pas par la réalité. C'est très curieux. Il faut interroger, maintenant c'est déjà un peu dépassé, mais c'était quand c'était le début de l'art abstrait. et qu'on connaissait des jeunes artistes, peintres, qui se mettaient à la rapserie. Je connaissais plusieurs. Je leur ai dit, mais pourquoi mettez-vous à la rapserie ? Elle me dit, aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on accepte. J'ai dit, mais ça, c'est pas un principe, quoi. Vous mettez la remorque de l'opinion des gens. Mais il faut bien vivre. Je dis, bon, très bien, si c'est vraiment pour ça que vous le faites, alors maintenez toujours autre chose. Pour ne pas être esclave d'un système. Aujourd'hui, il y a l'esclavage des systèmes. Un esclavage logique. On est esclave. La méthode est considérée comme une idole. J'ai entendu, c'était à Fribourg, j'ai entendu un professeur qui disait ouvertement, au Moyen-Âge, on parlait de l'objet. Qu'est-ce qui remplace l'objet ? La méthode. Aujourd'hui, on ne regarde pas de la méthode. C'est la méthode qui détermine. Mais la méthode qui détermine, c'est la raison qui détermine, c'est la logique qui détermine. Alors on ne retrouve plus le réel. Bon. Donc, très bien, mais distinguer mieux philosophie et pédagogie. Philosophie et guérison. Ne faites pas des retraites de guérison. De guérison morale, oui, guérison morale. Mais pas de guérison psychologique ou de guérison de plaie. L'expérience quotidienne confirme que le corps n'est qu'un conditionnement de la personne. Le cas de la mort du corps nous montre cependant que c'est toute ma personne qui est morte. Non. C'est faux de dire que c'est toute votre personne qui est morte. Vous n'avez pas l'expérience pour dire ça. Donc vous dites ça par un a priori. Vous avez derrière une théorie. On n'a pas fait l'expérience de la mort. Ni vous, ni moi. Alors on pouvait faire des méditations tous les vendredis sur la mort en face à un crâne. C'est ce qu'on faisait, nous, encore de notre temps. On avait la méditation sur la mort le vendredi. On avait un crâne. Un drôle de tabernacle. Hein. Le cas de la mort du corps nous montre cependant que c'est toute ma personne qui est morte. La mort ne serait-elle pas une limite dans l'affirmation du corps comme conditionnement substantiel ? Je dis conditionnement substantiel, donc ça intègre la mort. Si je disais conditionnement accidentel, je suis d'accord. La mort n'est pas un conditionnement accidentel, c'est un conditionnement substantiel. C'est la victoire du corps sur l'âme. Végétative. C'est exactement ça. C'est la victoire du conditionnement sur la finalité. La mort s'explique par le conditionnement. Puisque le conditionnement du corps réclame sa part. C'est l'enfant terrible. Il réclame sa part. J'en ai marre d'être avec cette âme. Cette âme qui veut toujours que j'aille plus loin, que je tende vers la sainteté, c'est assommant. Mon corps ne tend pas vers la sainteté, mais... non. Pas du tout. C'est le conditionnement, le corps. Et la mort doit se comprendre comme la victoire du conditionnement du corps sur l'âme. À un moment donné, quand l'âme est fatiguée, le conditionnement est tel qu'il l'emporte. Et ça se voit très bien aujourd'hui avec ces morts ralenties, un peu artificielles, où il y a de fait l'aide technique pour la vie de l'homme. Alors, à un moment donné, l'âme n'a plus la force de supporter l'instrument. Lui qui ne vieillit pas, est-ce qu'on peut le remplacer ? Alors il fonctionne toujours comme dès le premier moment. un moment donné, à la place d'aider, il étouffe. Ça, c'est pas du tout la nature, c'est le conditionnement. La mort, au contraire, confirme que le corps est le conditionnement. Je ne suis pas finalisé par le corps et par la mort. Ça, c'était les existentialistes qui disaient « L'homme est pour la mort. » Sartre. L'homme est pour la mort. Oui. Ça a demandé à ce moment-là une réflexion profonde sur la mort. La mort est-elle naturelle ou n'est-elle pas naturelle? Ce qui est naturel, c'est la victoire de l'âme sur le corps. Par la finalité. Or, lorsque le conditionnement l'emporte, hein, c'est la guerre civile. Hein. C'est la guerre civile, c'est le conditionnement qui dit non. Et il y a une séparation. Et chacun s'en va de son côté. Et philosophiquement, on ne sait pas quand ils reviennent l'un à l'autre. Chacun s'en va de son côté. Ou, je sais pas, philosophiquement. Surnaturellement, je le sais. Et je sais quand ils reviendront à la résurrection. La résurrection, c'est... On va se raccommoder. On va pouvoir vivre ensemble. Et le conditionnement accepte d'être le conditionnement. C'est très difficile pour notre corps d'accepter d'être que le conditionnement substantiel. C'est très difficile. Il y a constamment ces petites révoltes, constamment. Et le désir de se détendre, de la jouissance, de tout ça, c'est la petite révolte intestine, domestique, au sens très très fort. Et c'est cela qui me fait dire que le corps est le conditionnement substantiel. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi avant de dire ça. Et maintenant, j'en suis convaincu. Parce que je l'ai vu nulle part ailleurs. Si vous l'avez vu chez un autre philosophe, vous me le direz. C'est en étudiant la personne, qu'on est, la personne humaine, qu'il faut situer exactement le corps et son rôle jusqu'au bout. Alors ça, c'est intéressant. Et je peux mettre conditionnement. Substantiel, ça jure. Normalement, le conditionnement est accidentel, parce qu'il est du côté des opérations. Qui dit substantiel, dit un conditionnement qui s'impose d'une manière telle qu'il est une limite. Le conditionnement, d'habitude, n'est pas une limite. Je suis conditionné par ma main, je suis conditionné par mon bras pour mes gestes, je suis conditionné par mes jambes pour la marche. Je suis conditionné par mon corps. Quand mon corps devient énorme, un petit dodo, ça va plus. Hein. Alors c'est le corps qui non seulement conditionne, mais détermine. Alors quand il détermine, accident, c'est grave. Il vaut mieux plus bouger. C'est mieux. Cherchez bien, parce que c'est ça que je disais, c'est que vous trouviez vous-même. Parce que si vous ne trouvez pas vous-même, dès que vous lirez un autre philosophe, dire « Ah, mais oui, c'est bien plus intelligent !» Analysez. Il faut apprendre à analyser. Ça, c'est pour ça que c'est très bien, comme question, de voir est-ce que c'est pas le sens qui rétablit le sens. Bien non. Alors, le conditionnement, dire que la mort montre que ce n'est pas... Vous oubliez, conditionnement substantiel. La mort est substantielle, ça c'est tout à fait d'accord. La mort ne s'explique pas par le conditionnement. Elle s'explique par un conditionnement substantiel. C'est la seule chose que vous pouvez essayer d'expliquer. Alors, quand dans l'existentialisme, pendant un certain temps, c'était la grande mode, hein, l'homme est déterminé et finalisé par la mort. et la mort déterminer la vie de l'homme. Alors, quand un philosophe dit ça, ça fait florès. Tout le monde répète, sans comprendre. Tout le monde répète. Mais si on cherche la vérité, on doit se demander tout de suite, mais est-ce que c'est vrai ? Alors, première question, la mort est-elle naturelle ? Ah, moi j'aimerais savoir, hein. Si on avait le temps, je vous dirais, réfléchissez un quart d'heure, puis vous mettrez. Alors, vous ne pouvez pas le faire, mais réfléchissez-y. La mort est-elle naturelle ? Au point de vue de la foi, qu'est-ce que je dis ? La mort est une peine. Elle n'est pas naturelle. C'est une peine. Jésus a choisi librement la mort. Il ne devait pas mourir. Homme parfait. Il ne devait pas mourir. Il a choisi librement la mort. Parce que le Père et lui l'ont choisi. Comme le conditionnement substantiel qui nous obligeait de réfléchir. On ne va pas au-delà de la mort. Sauf pour la résurrection. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces 3 jours. Pour qu'on puisse voir que la mort était réelle. Si Jésus était ressuscité le soir, on aurait dit il s'est endormi. Ah, tout de suite, hein, ça aurait été. Il n'aurait plus rien dire. Tandis que là, 3 jours. Comme pour Lazare. Alors pour Jésus, on ne pouvait pas le dire, puisque son corps n'a pas connu la corruption. Pour Lazare, son corps a connu la corruption. Dans les pays chauds, 3 jours, la corruption existe. C'est important de se poser la question. Alors, la foi dit ça. Que dit l'intelligence ? Que dit l'intelligence ? Foi et raison. Que dit l'intelligence ? Que dit la raison ? En face de la mort. Est-ce naturel ? Tout homme meurt. Bon, si tout homme meurt, c'est naturel. Ah non. Vous voyez ? Là, suffrage universel. Le suffrage universel ne me dit pas la vérité. Tout homme meurt. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. J'ai jamais rencontré encore dans ma vie un homme qui disait qu'il ne mourrait pas. Tout homme meurt. Si tout homme meurt, tout ce qui est universel pour l'homme est une propriété de l'homme. Ah non, pas nécessairement. Si ça provient du conditionnement substantiel. Ça provient donc d'une fragilité du corps, le corps corruptible. Est-ce que naturellement le corps est corruptible ? Non, puisque l'âme est incorruptible. Si l'âme est incorruptible, elle est victorieuse du corps. Et c'est bien qu'elle soit victorieuse du corps. Félicitations. C'est-à-dire que vous ne félicitez pas quelqu'un d'être malade. La corruptibilité du corps l'emporte. Le conditionnement substantiel l'emporte. Et je ne peux pas déterminer ce qui est naturel par ce qui est une privation, un manque. Je constate que ce manque est coutumier. Il existe tout le temps. Il est coutumier. La mort est coutumière pour l'homme. Et c'est ce qu'on dira. Oui, tout homme doit mourir. Ne vous inquiétez pas de vieillir. C'est normal que vous vieillissiez. Parce que vous devez mourir. Si je ne devais pas mourir, il n'y aurait pas de vieillesse. La vieillesse est en fonction de la mort. Ah oui, ça oui. Et les premiers symptômes de la vieillesse, c'est les petites colombes qui annoncent la mort. Les hirondelles qui annoncent la mort. Ou les corbeaux, si vous aimez mieux, parce que ça va mieux. Ça annonce la mort. Vous voyez, c'est curieux. on ne réfléchit jamais sur ces choses qui sont pourtant quotidiennes et qui sont importantes pour nous. Si la mort détermine ma vie, je ne vivrai pas comme je vis. Ah, ça, je vous assure. J'essaierai de jouir le plus que je peux. Si la mort déterminait ma vie, si après la mort, il n'y avait plus rien, je suis un imbécile de ne pas profiter le plus que je peux. Si la mort ne conditionne pas, si la mort ne me détermine pas et ne fait que conditionner substantiellement, c'est-à-dire il y a une rupture de ce que je vis maintenant et ce que je vivrai après, mais il y a une continuité. Et il y a une quantité substantielle par mon âme. Et c'est mon âme qui détermine ma vie, c'est pas mon corps. Puisque le conditionnement, même substantiel, ne détermine pas. Vous voyez, il faut aller jusque-là. Et si vous n'allez pas jusque-là, votre philosophie n'essaie pas d'éclaircir ce qui, pour nous, et le pain quotidien. Nous ne vivons pas en vue de la mort, nous vivons en vue de la vie. Et d'une vie spirituelle, puisque c'est la seule qui ne meurt pas. Toutes les autres vies, elles sont corruptibles. Donc elles sont relatives à une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle demeure. Ce qui me fait comprendre que la mort ne fait pas, comme il est dit ici, le cas de la mort du corps ne montre cependant que c'est toute ma personne qui est morte. Eh bien non. C'est le conditionnement substantiel de ma personne qui s'est révolté. Instinctivement, hein, pas volontairement. Et quelquefois c'est volontaire, dans le cas du suicide. Dans le cas du suicide, c'est ça. C'est, je vais essayer de comprendre le suicide au point de vue philosophique. Et je dois étudier ce que c'est que le suicide au point de vue philosophique. Comment le suicide peut arriver? Et comment, dans une civilisation décadente, c'est-à-dire qui ne monte plus, qui sur un haut plateau, et qui désire rester toujours sur un haut plateau, mais qui fatalement dégringole, c'est le signe d'une civilisation décadente. C'est pour ça qu'on dit civilisation de la mort. Qui alors fait que le suicide, c'est tout simplement devancer, prophétiquement, que cette civilisation est une civilisation de la mort. Voir le suicide des jeunes, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus l'oxygène spirituel suffisant pour vivre. L'oxygène spirituel. L'oxygène spirituel, c'est l'aliment qui me permet à mon âme et à mon intelligence de vivre. Je n'ai plus la possibilité de me nourrir dans cette recherche de la vérité. Et n'ayant plus la nourriture suffisante pour cela, j'abdique. Et le suicide, c'est ça. C'est terrible. Surtout le suicide des jeunes. L'euthanasie, c'est du même ordre. C'est qu'on n'accepte plus la lutte. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Alors, on abdique. Et on abdique à deux, parce que le péché, on aime toujours être à deux. Ça, c'est vieux, c'est pas original. Ève ayant péché, attire Adam. De temps en temps, c'est l'homme qui attire la femme, de temps en temps, c'est la femme qui attire l'homme. Je ne sais pas si le péché cumule plus du côté de la femme ou du côté de l'homme. On verra ça quand on verra la personnalité de l'homme et la personnalité de la femme. On peut l'attaquer de ce côté-là. Et ce qui est le début de la Genèse n'est pas philosophique. Donc je ne peux pas me baser là-dessus. Vous voyez bien, c'est la femme qui a attiré l'homme, au péché. Nous avons essayé, jusque maintenant, de voir quelles étaient les dimensions, le pos métaphysique de la personne humaine. ayant découvert le Ti-Esti de l'homme, nous découvrons le Pos, la manière d'être, la manière d'exister. Parce que les principes n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent dans ma pensée. Ils existent dans la réalité, mais c'est la pensée qu'il saisit comme principe. Et puis je saisis comment ces principes s'incarnent, comment ils existent au fait. Et tous les principes propres de l'être et du bien s'incarnent dans la personne. Et je veux avoir l'intelligibilité de ce pos de la personne. J'étudie ces conditions essentielles de la personne. Ce que nous avons fait. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre, et ça complète, hein, un petit chapitre supplémentaire, appendice, si vous voulez, cet appendice. C'est moins important, mais c'est très intéressant, surtout aujourd'hui. Et on doit le faire aujourd'hui, parce qu'on est en face d'une psychologie qui veut tout expliquer. Or, elle ne peut pas tout expliquer, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'esprit. Et je ne peux expliquer l'homme que quand j'ai découvert ce que c'est que l'intelligence et la volonté, l'esprit. Je veux essayer de comprendre, puisqu'il y a 6 éléments et l'unité. Il y a diverses manières d'harmoniser ces 6 éléments. Ça, c'est sûr. Et en harmonisant différemment ces divers éléments, ces diverses structures, ces éléments de structure de la personne, je m'aperçois qu'il y a des types, et je crois que c'est ça qu'on doit dire, des types différents de personnalité. J'énumère simplement, puis on va ensuite entrer dedans. Il y a la personne du sage. C'est très ancien, ça, puisque la philosophie a commencé par le sage. Donc la personne du sage. Il y a la personne du père. Il y a la personne de la mère. La personnalité de la mère et la personnalité du père, c'est complémentaire. C'est pas la même chose. Et pourtant, je ne peux pas dire que l'homme est plus homme que la femme. Vous voyez ce que je dis, homme, la nature humaine. Je ne peux pas dire que la nature humaine est mieux réalisée dans l'homme que dans la femme. On se posera la question. Et là, une enquête philosophique serait très intéressante, hein, de voir ça. De regarder Aristote et Platon, par exemple. Parce que c'est dans cet affrontement-là qu'une philosophie se découvre immédiatement. Donc, le sage, le père, la mère, y a-t-il une personnalité de l'enfant ? C'est intéressant aussi de se poser la question. À quel moment la personnalité se noue ? Et qu'on peut dire qu'il y a une personnalité. Il y a la personnalité de l'homme prudent, sagesse pratique, personnalité de l'homme politique, est-ce que ça existe? Personnalité de l'artiste. Personnalité, point d'interrogation, du sportif. L'exaltation du conditionnement substantiel. Je vis pour que mon corps soit un corps idéal. Je suis premier dans toutes les compétitions sportives. Maillot jaune. Tout le temps. On porte tout le temps. parce que on comprend, on commence les compétitions sportives entre les différents séminaires. J'ai béni hier en partant à Raymond, et c'était très très important. Je ne demande pas de bénédiction avant les examens, mais Milan me l'a demandé, hein, c'est très bien. Je dis pourquoi, mais on commence demain. Premier match. Dedans, il doit y avoir la personne sportive numéro 1, que tout le monde reconnaît. Que c'est grâce à toi qu'on a remporté, c'est grâce à toi qu'on a fait le but, c'est grâce à toi que... Alors, est-ce que le Führer sportif est une personne? Le Führer politique est-il une personne? Le Führer sportif, celui qui tout le monde reconnaît, c'est vraiment lui le premier dans le sport. C'est important de se poser la question, parce que les propagandes aujourd'hui, quand on a vu à Paris ce qui se passait le jour où la France était première par rapport au match sportif, c'était un délire comparable au jour où on a de la victoire, de la libération, de la fin de la guerre. Bon, c'est très curieux de voir ça. De voir dans les civilisations décadentes, le sport l'emporte tout le temps. Je dis ça, alors est-ce que c'est vrai? Philosophiquement, est-ce que c'est vrai? On dit ça, ça se dit. Alors pourquoi? Ça correspond à quoi? Et c'est vraiment la question de la personne. C'est la personne humaine qu'on doit voir dans ses différentes modalités. Et ceci est normal, puisque nous avons 5, 6 déterminations de l'homme, de la personne humaine. On en a une 7e. Alors, on la verra au terme. On l'a pas vue, puisque celle-là ne peut se voir qu'après la découverte de l'existence de Dieu. Donc, Dieu n'est pas découvert. On n'a pas de véritable contemplation, de véritable sagesse. On n'a qu'une sagesse pratique. C'est même peut-être la première question qu'on doit se poser. Ayant découvert les diverses modalités, on doit se poser, y en a-t-il une 7e? Et c'est bien la première question que je pose. Y en a-t-il une 7e? C'est important, puisque la philosophie, c'est une recherche. Dans la recherche, on doit toujours... Chaque fois qu'on s'arrête, on doit se poser la question, attitude réflexive, est-ce que je suis arrivé au terme? Ou est-ce que je dois monter encore? Après avoir fait cette étude sur la personne, je m'arrête. Est-ce qu'il y a une 7e dimension de la personne humaine? Je dis oui. Il y a une 7e dimension. Ayant découvert l'existence d'un être premier, Dieu, créateur et père, je vois que il y a cette 7e dimension qui est l'adoration conduisant à la contemplation. Au plan naturel, et j'ai là une dimension ultime de la personne qui assume toutes les autres sans les modifier. Puisque, à l'égard de Dieu, je n'ai pas une expérience immédiate, si j'avais une expérience immédiate de Dieu, je dirais que cette expérience de Dieu peut très bien faire que tout le reste devient comme une disposition qui, lorsque j'atteins le terme, disparaisse. Il n'y a plus que la vision de Dieu, ou la contemplation de Dieu, ou l'expérience philosophique de Dieu qui demeure. Or, je n'ai pas l'expérience de Dieu, philosophiquement parlant. Je n'ai pas la contemplation immédiate de Dieu, philosophiquement parlant. J'ai posé l'existence de Dieu. Je découvre l'existence nécessaire d'un être premier qui s'appelle Dieu, selon les traditions religieuses. Et cet être premier est une personne spirituelle au-delà du corps. Elle est la pensée de la pensée. Elle est l'amour de l'amour. C'est une personne spirituelle sage, la sagesse même, la vérité même, l'amour même. Il est. Et il se connaît et il s'aime. Et j'ai bien une septième dimension au point de vue de la personne. C'est que je tends vers cette personne de toutes mes forces, de toute mon âme, de toute mon intelligence. Pour essayer de découvrir ce qu'il est et de l'aimer. Je découvre qu'il est père. Et découvrant qu'il est père, je découvre qu'il y a donc possibilité pour moi de voir qu'il y a entre le Créateur et le Père quelque chose de distinct. Le Père, c'est celui qui communique sa vie. Or, Dieu, en créant un esprit, communique quelque chose de sa vie. Son intelligence et sa capacité d'aimer. Ce qu'il ne communique pas à l'animal. Si grand, si beau que soit l'animal, le lion, il n'a pas ce lien avec le Créateur que le tout petit enfant peut avoir. Un lien spirituel. L'esprit. L'esprit me met au-delà du monde matériel et l'esprit me permet de développer. Cette exigence spéciale, ce koinonia, cette communauté avec Dieu, grâce à ce fait que je peux rechercher la vérité, je peux l'aimer, je peux contempler d'une façon très imparfaite, mais quand même, l'existence de Dieu. Contempler Dieu dans son esprit, dans la limpidité de sa contemplation, dans son amour. Et je peux adorer mon Créateur. Il y a les deux. J'adore mon Créateur et je contemple le Père. Et là, il y a une dimension spécial de la personne humaine qui est le contemplatif de Dieu. Même si cette contemplation ne se fait que par moment, même si cette contemplation est très faible, elle existe. Et je jouis à ce moment-là de ce lien de fils à l'égard du père. C'est une filiation très spéciale, fondée sur la création, mais qui dépasse la création. Le créateur, je ne peux que l'adorer. Celui